Vous écoutez, on lit pour vous.
Peut-on vraiment se passer d'assurance vie et invalidité? Un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 3 août 2025 dans la presse. L'augmentation du coût de la vie combinée à la pléthore d'assurances et de garanties qu'on se fait offrir peut donner envie de tout annuler pour récupérer l'argent des primes chaque mois. Mais attention à ne pas tirer un trait sur l'assurance-vie et l'assurance-invalidité trop vite. Ces produits peuvent être utiles de plus d'une façon. Quand magasiner une assurance-vie? Lorsqu'elle a commencé sa pratique, la planificatrice financière Sandy LaChapelle avait un malaise à parler d'assurance-vie avec ses clients. Elle craignait d'avoir l'air trop vendeuse, mentionne-t-elle. Mais l'histoire d'un de ses clients l'a marquée, celle d'un homme de 49 ans qui est mort prématurément alors qu'il était entre deux emplois et qui avait décidé de ne pas prendre d'assurance-vie le temps de se replacer. Ce papa de deux adolescentes, ayant toujours bénéficié d'un style de vie confortable, a passé des mois à s'en faire pour l'avenir de sa famille plutôt que de profiter du temps qui lui restait à vivre, écrit-elle dans son livre « Si c'était facile, nous serions tous riches. » À cette histoire s'ajoute tout un tas d'autres cas où les aléas de la vie ont fait en sorte que certains étaient bien contents d'avoir pris des assurances. C'est pourquoi Sandy LaChapelle consacre dans son livre un chapitre complet à ce sujet, même si elle convient qu'il est moins sexy que d'autres. Je vois régulièrement des familles, dit-elle, où il y a un parent qui décède ou qui tombe malade, ou des personnes âgées qui décèdent avec plein d'impôts reportés, et leur famille aurait aimé qu'il y ait plus de préparation de la succession. Donc, j'ai ce biais-là, poursuit-elle. Mais à l'inverse, les clients, eux, ont un biais qu'ils ne vont pas être malades. Ils pensent que ça arrive juste aux autres, les accidents et les décès, dit-elle. Tout le monde paie son assurance de maison, son assurance auto, les gens ne posent jamais de questions là-dessus. Mais quand il est question de leur propre sécurité financière, ils sont super soucieux, donc il y a peut-être un manque d'éducation. Je pense que s'ils comprennent, ils vont moins avoir l'impression de payer pour rien, souligne la présidente de Sandy LaChapelle, Finance Intelligente. Voici quelques situations où magasiner une assurance-vie pourrait être particulièrement pertinent. 1. Vous avez de jeunes enfants. C'est probablement le cas le plus classique. Pour une petite famille avec de jeunes enfants, le décès d'un des parents peut être catastrophique d'un point de vue financier, surtout s'il y a un prêt hypothécaire à payer et pas d'assurance-vie. On aimerait pouvoir garder la même qualité de vie pour la famille, ce qui implique de pouvoir garder la maison. C'est un enjeu qui est mille fois plus grand aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que c'est difficile d'avoir une hypothèque avec un seul salaire, souligne Sandy LaChapelle. Le planificateur financier Martin Leduc, auteur du livre « Maîtriser ses finances », divers sujets jamais ou rarement abordés, est du même avis. « Si tu meurs, dit-il, est-ce qu'il y a des gens qui vont manquer d'argent? » Si la réponse est oui, tu as besoin d'assurance pour remplacer tes revenus, payer des dettes, peu importe. C'est à ce moment dans la vie que ça vaut la peine de choisir une assurance couvrant un montant élevé. À mes yeux, ça prend un remplacement de revenus pour au minimum le temps durant lequel les enfants sont à charge financièrement. Donc, plus les enfants sont jeunes et plus on a des actifs, plus ça prend de gros montants d'assurance, affirme Sandy LaChapelle. Elle recommande à ce moment d'opter pour une assurance-vie temporaire, par exemple pour 10 ans ou 20 ans, qui permet de remplacer le revenu pendant cette période et de rembourser d'éventuelles dettes. Ce besoin est temporaire et va changer dans le temps. Une fois la maison payée et les enfants partis de celle-ci, ça ne vaut plus nécessairement la peine d'être assuré pour un aussi gros montant. 2. Vous voulez garantir votre assurabilité ou celle de votre enfant. La tranche de la population pour laquelle il est le moins pertinent d'avoir une assurance vie est probablement celle des jeunes sans enfants ni engagement financier qui impliquent une autre personne. C'est avant tout à l'assurance invalidité que ces gens devraient s'intéresser. Mais il reste que ça peut être intéressant, même jeune, de prendre une assurance vie temporaire et transformable en produit permanent. À cet âge, les primes à payer seront basses et cela garantit l'assurabilité future. Madame Lachapelle explique. Si quelqu'un souscrit une assurance vie dans la vingtaine ou la trentaine, s'il arrive des événements dans son bilan de santé qui font qu'il ne serait plus assurable ou qu'il devrait payer une surprime, cette assurance vie-là va toujours être en fonction de l'état de santé de la personne quand elle l'a souscrite. Cette stratégie peut être particulièrement intéressante pour quelqu'un qui a un historique familial de cancer dans la quarantaine ou de développement de troubles de santé mentale graves ou de dépendance à des substances dans la vingtaine. Si ces problèmes de santé se déclenchent avant d'avoir souscrit à l'assurance vie, il pourrait être difficile ou bien plus cher d'en obtenir une au moment où on magasine une assurance en prévision d'un projet de famille. Une assurance vie peut aussi être utile pour un jeune qui investit en immobilier avec des amis ou qui voudrait léguer sa maison à un proche en cas de décès. Le montant faciliterait le rachat de parts. Comme les jeunes qui pensent à leur assurabilité future sont rares, les parents peuvent également décider d'assurer leur enfant. Ainsi, son assurabilité sera garantie et s'il devait lui arriver quelque chose, un montant sera disponible pour payer les frais funéraires et pour prendre un temps d'arrêt du travail. 3. Vos assurances collectives ne sont pas si blindées. De nombreux régimes d'assurance collective comprennent une assurance vie, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle couvre tous vos besoins. Souvent, les gens vont être assurés pour une ou deux fois leur salaire. Donc, si on parle de quelqu'un dans la trentaine ou la quarantaine qui a beaucoup d'engagements financiers, c'est insuffisant, indique Sandy Lachapelle. Pour la petite famille dont il était question plus haut, ce montant ne permettrait probablement pas de conserver la maison et le rythme de vie bien longtemps. 4. Vous voulez optimiser votre succession. Pour les personnes plus âgées, dont la maison est payée et les enfants sont autonomes, l'assurance vie revêt une fonction davantage liée à la succession. À cette période de la vie, Sandy Lachapelle recommande dans son livre de basculer vers une assurance vie permanente. Le montant payé lors du décès peut servir à la succession pour rembourser les impôts reportés et les dettes et couvrir les frais funéraires. C'est aussi pratique lorsqu'il y a des legs importants. Par exemple, si on lègue des blocs appartements, leur passation à l'enfant générera un gros gain en capital et il va falloir une certaine liquidité pour payer les impôts, affirme Martin Leduc. L'assurance-vie peut aussi aider les familles recomposées à mieux planifier l'héritage, explique Sandy Lachapelle dans son livre. Dans un couple dont les membres ont chacun des enfants issus d'unions précédentes, lors du décès d'un conjoint, il est préférable fiscalement de transférer l'ensemble de ses biens au conjoint restant plutôt qu'à ses enfants. Prendre une assurance vie avec son enfant comme bénéficiaire permet de lui léguer une somme au décès sans avoir à se soucier de ce qu'il adviendra de l'argent laissé au conjoint. On entend parfois dire que dans des familles plus fortunées, les parents prennent une assurance vie d'une valeur de 1 million pour s'assurer que leurs enfants sont millionnaires à leur décès. Est-ce que ça arrive pour vrai? Sandy Lachapelle confirme que oui, mais souligne que les primes coûtent cher et que ce ne sont pas tous les assureurs qui accepteront de fournir une telle assurance. On assure les parents et des fois, c'est même l'enfant qui va payer la prime comme un investissement. Donc, on va faire une analyse de rentabilité, mentionne Sandy LaChapelle. C'est sûr que plus le parent va décéder vieux, plus ça ressemble à un rendement d'un placement garanti, donc un bas rendement, ça peut arriver, dit-elle. Vous écoutez, peut-on vraiment se passer d'assurance vie et invalidité? Un dossier de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 3 août 2025 dans la presse. 5. Vous pensez être mal assuré. Sandy LaChapelle croise souvent dans sa pratique des gens qui ont peur d'être surassurés, notamment parce qu'ils considèrent cette dépense comme de l'argent non placé, ce qui veut évidemment dire qu'il y a un coût de renonciation. Si les primes coûtent 400 $ par année, ce sont 400 $ qui ne fructifieront pas. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait choisir entre investir ou acheter une assurance vie, parce qu'en théorie, on est capable de faire les deux, assure Sandy LaChapelle. À son avis, les dépenses superflues sont plutôt liées à des garanties offertes sur des objets comme un téléphone intelligent ou un ordinateur. Si ceci brisait, le coût financier ne serait probablement pas dramatique à absorber. Dans le domaine de l'assurance vie, elle voit cependant des gens être mal assurés. Par exemple, quelqu'un qui a de jeunes enfants et une assurance vie permanente de 100 000 $. Si tu décèdes et tu laisses 100 000 $ à ton conjoint et tes 3 enfants, ça ne remplacera pas un revenu très longtemps, dit-elle. Certains prennent une assurance prêt hypothécaire sans faire une analyse de leurs besoins individuels. D'autres choisissent une assurance qui coûte le même montant, pas plus, que certains de leurs amis, sans réaliser à quel point les modalités des assurances vie varient énormément. Petit lexique de l'assurance-vie. Bénéficiaire. Il s'agit de la personne ou de l'organisme qui recevra le montant de l'assurance lors du décès de la personne assurée. Règle générale, les prestations d'assurance-vie ne sont pas imposables. Prime. Montant payé de façon régulière pour maintenir l'assurance en place. Assurance-vie temporaire. Il s'agit d'une assurance pour une durée fixe, par exemple 10 ans, 20 ans ou 25 ans. On s'en sert pour couvrir un risque temporaire, par exemple les années restantes sur un prêt hypothécaire. Assurance vie permanente. Elle couvre l'assuré à vie, à condition qu'il continue de payer les primes. Il en existe plusieurs types. Valeur de rachat. Certaines assurances-vie permanentes comprennent une valeur de rachat, c'est-à-dire qu'on peut décider de s'en débarrasser en cours de route et l'assureur nous reversera une portion de la prime. Au Québec, on peut aussi vendre sa police à un tiers parti. Une priorité surtout pour les jeunes travailleurs. Les spécialistes à qui nous avons parlé dans le cadre de ce dossier tenaient à le mentionner. L'assurance invalidité doit être une priorité pour à peu près tout le monde qui travaille. Pourtant, elle est souvent négligée. Cette assurance permet de remplacer notre salaire si on se retrouve dans l'incapacité de travailler. Les événements menant à l'invalidité temporaire ou permanente peuvent être nombreux, allant d'une déchirure du talon d'Achille à une dépression. Une personne début trentaine sera active sur le marché du travail pour encore 25 ou 35 ans. Si demain matin, cette personne n'est plus capable de travailler, c'est l'aide sociale qui l'attend si elle n'a pas d'assurance invalidité. À moins que ses parents soient très riches et aient le goût de l'aider, lance d'entrée de jeu le planificateur financier Martin Leduc, qui consacre un chapitre de son livre « Maîtriser ses finances, divers sujets jamais ou rarement abordés, à cette question. Un exemple particulièrement parlant qu'il donne dans son livre est de faire la comparaison avec des objets de grande valeur que l'on assure, comme une voiture ou même un téléphone cellulaire. Si tu avais une machine à imprimer de l'argent qui imprimait 50 000 $ par année, tu ne voudrais pas qu'elle brise, tu voudrais qu'elle continue à imprimer cet argent, dit-il, faisant évidemment référence à un salaire annuel. L'assurance invalidité est parfois boudée, étant donné que ses primes sont plus élevées que celles de l'assurance vie, pour la simple raison que le risque est plus grand pour l'assureur et donc aussi pour le détenteur de police. L'assurance invalidité, selon moi, dit Mme Lachapelle, quand tu es en période d'accumulation, c'est beaucoup plus important que l'assurance vie. Dans ce domaine, prendre des assurances tôt pour garantir son assurabilité peut être important. On va le voir beaucoup avec les jeunes médecins, les jeunes professionnels. Ils sont encore à l'université et on leur vend un paquet de gros produits pour s'assurer que, si quelque chose se passe, ils aient déjà des produits de base, mentionne Martin Leduc. Ça a du sens, parce qu'ils vont être générateurs de beaucoup d'argent, de gros revenus. Si un médecin n'est plus capable d'opérer parce que sa main tremble, ça ne se remplace pas de même un gros salaire, ajoute-t-il. Ça permet aussi de s'assurer avant le développement de problèmes de santé qui pourraient générer des exclusions. L'assurance invalidité est pertinente tout au long de la vie professionnelle. Lorsque les gens approchent de la retraite, ils peuvent décider de s'en débarrasser puisque la période où ils génèrent du salaire achève. Cette assurance est importante pour les travailleurs autonomes qui n'ont pas d'assurance collective. Mais même ceux qui en ont devraient lire les détails avec attention. À moins d'avoir un collectif très, très généreux qui coûte cher à l'employeur, généralement, après 24 mois d'invalidité, l'assureur ne paiera plus, souligne Sandy Lachapelle. Elle mentionne qu'il est souvent écrit que l'assurance invalidité couvre jusqu'à 65 ans, mais les conditions sont tellement nombreuses que c'est très improbable. Avoir une assurance invalidité collective peut permettre d'avoir un rabais sur une assurance invalidité privée, en la montant de façon à ce que l'assurance individuelle soit deuxième payeur après le collectif. Attention, si l'employeur contribue au paiement de la prime d'assurance invalidité, elle devient un avantage imposable et ses prestations sont imposées. Tandis que si l'assurance invalidité est totalement payée par l'employé, c'est non imposable. Il faut gratter, parce que si tu es couvert à 60% de ton salaire imposable ou 60% pas imposable, ce n'est pas le même montant qui rentre dans ton compte, souligne Martin Leduc. Assurance maladie grave. Il ne faut pas confondre l'assurance invalidité avec l'assurance contre les maladies graves, qui donne un montant forfaitaire lors de la réception d'un diagnostic parmi une liste, par exemple cancer, crise cardiaque ou AVC, même si on continue de travailler. Ce montant peut permettre de prendre un congé sans solde ou de payer pour des traitements ou services complémentaires. Un cas de figure intéressant pour l'assurance maladie grave, un pharmacien propriétaire qui doit, en cas de maladie, embaucher quelqu'un pour le remplacer pour que la pharmacie reste en activité. Ça peut être facilement 200 000 $ pour un an. Donc, si le pharmacien propriétaire est malade et ne peut plus travailler pendant un an, ça va lui coûter pas loin de 200 000 $. Une assurance maladie grave peut te donner un montant pour la durée que tu veux couvrir, explique Martin Leduc. La logique est la même pour n'importe quelle entreprise dans laquelle il y a une personne clé qu'il faut absolument remplacer en cas de maladie grave. C'était « Peut-on vraiment se passer d'assurance vie et invalidité ?» un texte de Camille Dauphiné-Pelletier, paru le 3 août 2025 dans La Presse.
Et si le commérage avait sa place au boulot? Un texte de Jean-François, Berthollet, paru le 15 juillet 2025 dans La Presse. Le commérage a bien mauvaise presse. Certains évoquent la radio du diable. Peu de gens voudraient d'ailleurs être identifiés comme une commère au travail. Cela dit, qui ne tend pas l'oreille lorsque ces délicieuses conversations ont lieu dans le bureau d'à côté? Des anthropologues estiment même qu'il occupe jusqu'à 65 % de nos conversations de tous les jours. Serait-il temps de redonner ces lettres de noblesse à une pratique vieille comme le monde? Des chercheurs ont démontré que le commérage pouvait exercer une influence positive sur le succès des équipes, notamment parce qu'il favorise la responsabilisation et l'imputabilité. Le commérage se définit simplement comme le fait de parler de quelqu'un qui n'est pas présent. Qu'on le veuille ou non, il joue un rôle prépondérant dans nos environnements de travail et dans la société. Une société sans commérage serait assurément dysfonctionnelle. Une étude publiée dans la revue Psychoneuroendocrinology montre par ailleurs que le commérage amène le corps à sécréter de l'ocytocine, hormone responsable de l'amour, de l'attachement et de la générosité. Notez que c'est d'ailleurs un phénomène universel. Connaissez-vous bien des sociétés ou des entreprises où le commérage est absent? Une recherche a d'ailleurs calculé qu'un courriel sur 6 échangé au travail était du commérage. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le commérage y est 2,7 fois plus fréquemment négatif que positif. Même si vous tentez d'empêcher les gens de commérer, ils le feront quand même, mais en mentionnant à leur interlocuteur de ne répéter à personne l'information que vous venez de partager. Cette nouvelle personne informée, on s'en doute, la répétera à une autre personne en précisant à la prochaine de ne pas la répéter, car on lui a spécifié de ne pas en parler. Et ainsi de suite. Le commérage trouve assurément toujours son chemin. Une étude publiée dans Nature Human Behavior révèle que derrière ce qui semble être une banale décision de partager une information dans une conversation de corridor, se cache en fait un calcul stratégique complexe et inconscient, basé sur des cartes d'interaction sociale. Les chercheurs ont en effet montré que notre cerveau dessine des cartes des réseaux sociaux, de relations, pendant notre sommeil, afin d'affiner notre stratégie de commérage pour notamment savoir à qui raconter nos histoires. Comment expliquer les effets bénéfiques du commérage au travail? Dans une équipe, l'équilibre de la coopération est fragile. Les personnes qui agissent contre l'intérêt du groupe posent un risque à la cohésion sociale. L'anticipation que le commérage est possible est une forme de punition préventive. Des recherches témoignent d'ailleurs que la croyance que l'on pourrait être la proie du commérage augmente notre tendance à collaborer. Pensez à l'arrivée des plateformes d'évaluation comme TripAdvisor. N'est-ce pas la plus grande plateforme de commérage au monde? Et qui sera puni? Gageons que les hôtels qui fonctionnaient sous des modèles de fausses représentations n'ont pas accueilli avec joie cette opportunité rapide et efficace de commérage, contrairement aux hôtels qui offraient un excellent service et pour qui, enfin, le mot se passe. Il en va de même pour les travailleurs. Ceux qui sont des acteurs positifs dans leur entreprise se voient récompensés par le commérage de personnes qui soulignent à grands traits leurs forces. Cela devient un accélérateur de relations car la confiance se construira rapidement quand les gens ont parlé positivement de vous dans votre dos. Pour ceux qui dirigent une équipe, cela nous ramène à l'importance des pauses en groupe et des conversations autour de la machine à café. Peut-être que ce « small talk » a plus d'importance qu'on ne l'imagine. Ceux qui gèrent en contexte de télétravail doivent également se questionner. Reste-t-il encore de la place pour ces conversations? Alors que certains craignent aujourd'hui que leurs échanges soient enregistrés. J'imagine que certains lecteurs sourient à la lecture de cet article en se disant « J'aime parler dans le dos des gens, ça me réconforte. » Attention, ce ne sont pas toutes les formes de commérage qui se valent. Les intentions de la personne qui fait du commérage sont analysées par celui qui reçoit l'information. Est-ce une intention prosociale? Par exemple, m'aviser d'être aux aguets avec un collègue qui a tendance à promettre des choses qu'il ne peut pas livrer? Ou est-ce une intention égoïste de sa part, soit de servir sa cause? Je vous invite donc à valider sincèrement vos intentions avant de vous lancer dans le commérage. Et si quelqu'un propage de fausses rumeurs dans votre organisation et ose utiliser le pouvoir du commérage à ses propres fins pour faire avancer ses propres intérêts, soyez assurés que les gens s'en rendront compte et vont commérer aux autres à propos du tricheur de commérage. Appelons cela le méta commérage. C'était « Et si le commérage avait sa place au boulot? » Un texte de Jean-François Berthollet, paru le 15 juillet 2025 dans La Presse.